Vous écoutez
RMC. RMC. 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Excellent réveil à tous, sur RMC et RMC Story. Il est 6h58, c'est parti pour Apolline Matin. Et vous, une fois vos factures payées, est-ce qu'il vous reste de quoi partir en vacances? Près d'un Français sur quatre n'a pas les moyens de partir une semaine chaque année. Est-ce que c'est votre cas? Comment on fait? Surtout si on a des enfants, évidemment. Alors venez nous raconter au 32-16 et par message sur le WhatsApp d'RMC 06-12-424-424. Et puis on découvre ce matin une nouvelle conséquence de la guerre au Moyen-Orient, là. Consommation est en baisse en France. Centres commerciaux, magasins de bricolage, boutiques de vêtements, les allées sont vides. Face à l'augmentation des prix du carburant, les Français font des arbitrages. À 8h30, je reçois le patron des magasins U, Dominique Schelcher. Il a rejoint la fronde contre le projet du gouvernement d'encadrer les marges des stations-service. Lui, il en possède 1000 des stations-service. Alors je veux bien qu'il soit contre le projet du gouvernement, mais en même temps, il va bien falloir quand même que les prix baissent. Comment? Quand? Réponse à 8h30 sur RMC et BFM TV. Et puis justement, journée exceptionnelle sur RMC. On est à vos côtés depuis 5h ce matin et toute la journée. RMC vous fait gagner votre plein d'essence toutes les demi-heures. 120 euros toutes les demi-heures. Toutes les 30 minutes un plein d'essence. Soyez bien à l'écoute. RMC, la radio du pouvoir d'achat à vos côtés. Il est 6h59. Dans une poignée de secondes, ce sera le journal de 7h. Mais d'abord, la météo et Géraldine, il fait beau.
Ah oui, c'est une belle journée de printemps, hein, vraiment, pour aujourd'hui. Il y aura du soleil pour tout le monde. Alors vraiment, toute la journée, si vous êtes au sud de la Loire, au nord de la Loire, il peut y avoir un peu de grisaille ce matin. Il y a pas mal de brouillard, notamment dans l'ouest. Ça va se dégager. Il y aura de très belles éclaircies cet après-midi avec quelques petits cumulus, mais qui seront pas gênants. Les températures sont en hausse. Et ce, dès ce matin, on a des températures qui vont être au-dessus des normales de saison. 18 à Lille, ça ce sera pour cet après-midi. 19 à La Rochelle, à Nantes, 20 à Paris, 21 à Lyon. Il fera 23 à Bordeaux, 24 à Marseille. Et jusqu'à 25 pour Perpignan.
Il est 7h, merci de vous réveiller avec RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un très long calvaire, les mots du procureur de Mulhouse pour qualifier la séquestration du petit garçon de 9 ans, resté plus d'un an dans une camionnette en Alsace, enfermé par son père retrouvé la semaine dernière, nu et dénutri en privation de soins. La très contestée loi Yadan visant à contrer les formes renouvelées d'antisémitisme au programme des députés aujourd'hui et demain. Et le Bayern Munich sur la route du PSG pour se hisser dans le dernier carré. Les Bavarois ont dû écarter le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions hier soir. 4-3.
Il a vécu l'enfer.
Ce petit garçon de 9 ans, retrouvé la semaine dernière à Hagenbach dans le Haut-Rhin, séquestré un an et demi dans une camionnette par son père, Julie Bro, du service police-justice. RMC, l'enfant a été entendu. Il s'est confié aux enquêteurs racontant l'horreur qu'il a vécue.
Oui, le petit garçon s'est longuement confié à deux enquêtrices spécialisées. Il leur a assuré que c'est à cause de sa belle-mère qu'il a été séquestré dans la camionnette, car elle menaçait de le placer en hôpital psychiatrique, a indiqué le procureur de Mulhouse.
Il expliquait avoir de très mauvaises relations avec sa belle-mère, qu'il qualifiait, je cite, de sa pire ennemie et de méchante. Il expliquait, je cite toujours, « Vu que mon père n'avait pas envie que je finisse dans un hôpital, il a dû me mettre dans la camionnette. » Et encore de dire que son père n'avait pas le choix.
L'enfant, retrouvé complètement nu et dénutri, ne pouvait pas tenir debout. Selon lui, son père lui apportait de l'eau et de la nourriture deux fois par jour, mais ses conditions d'hygiène se sont dégradées au fur et à mesure.
Il disposait d'un baluchon de vêtements et il devait uriner dans des bouteilles vides. L'enfant indiquait cependant que son papa ne lui lavait plus les vêtements et ne disposait plus de brosse à dents.
L'enquête doit désormais préciser le niveau de responsabilité de chacun et notamment déterminer si d'autres personnes avaient connaissance de la situation sans pour autant porter secours au petit garçon.
Elle a recueilli plus de 700 000 signatures. La pétition contre la proposition de la loi Yadan, rejetée par l'Assemblée nationale. Les députés vont donc se pencher aujourd'hui et demain sur le texte très contesté, proposant de répondre à l'explosion des actes antisémites et de lutter contre ces nouvelles formes soutenues par le gouvernement, mais rejetées par la gauche et une partie du bloc central. Le malaise est palpable. Beaucoup évoquent un texte flou et redoutent, Cyprien Pézril, une confusion entre antisémitisme et antisionisme.
Oui, le texte crée une nouvelle infraction, la provocation à la destruction et à la négation d'un État. En clair, interdire les appels à la disparition d'Israël, considéré comme une forme nouvelle d'antisémitisme. Mais derrière cet objectif, il y a la crainte que cette définition puisse être interprétée trop largement devant les tribunaux, même si les défenseurs du texte promettent pourtant que chacun sera libre de contester la politique de Benjamin Netanyahou. Alors pour s'en assurer, en commission, les socialistes ont voulu que ce soit écrit noir sur blanc dans la loi et autoriser, je cite, « la critique même vive d'un État et de sa politique ». Sauf que cet amendement, il a été rejeté. Voilà pourquoi il y a selon eux un risque d'atteinte à la liberté d'expression, une sérieuse menace, s'inquiète même la Commission consultative des droits de l'homme, pour qui des propos sans lien direct avec l'antisémitisme risquent donc d'être visés.
RMC, il est 7h03. Les dirigeants libanais et israéliens vont se parler aujourd'hui. C'est ce que dit Donald Trump au lendemain des premiers échanges depuis plus de 30 ans entre les deux pays à Washington. La Maison-Blanche qui ne ferme pas la porte à un deuxième cycle de négociations avec l'Iran à l'heure où Téhéran réfléchit à bloquer le trafic en mer Rouge en réponse au blocus américain du détroit d'Ormuz.
Et puis les conséquences de la guerre au Moyen-Orient sur l'économie mondiale, la France n'est pas épargnée.
Preuve en est ce chiffre de la Fédération Procos que vous révèle RMC ce matin de la consommation dans les enseignes non alimentaires, dont les ventes ont baissé de 4,7% le mois dernier par rapport à mars 2025. Les Français contraints à des arbitrages face à la flambée des coûts de l'énergie. Un problème de plus quand on sait que l'an dernier déjà, le taux de privation matérielle était de 13% en France. Résultat d'une étude de l'INSEE, renoncer à acheter des protéines animales, à chauffer ou encore partir en vacances, ne serait-ce qu'une semaine par an. Un Français sur quatre est concerné pour certains. Le scénario se répète année après année. Reportage à Beauvais, Antonin Audion.
Pendant les vacances scolaires de ses deux filles de 6 et 8 ans, Igor a choisi de les emmener au parc.
Avec les enfants, on n'est jamais parti en vacances. On essaie de s'occuper comme on peut. Mais j'aurais promis, dès que je récupère un véhicule, je les emmène à une plage.
Ni plage, ni montagne pour Sarah, question de budget.
Pas de vacances de prévu, pas de départ en vacances en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, si on veut avoir une maison, payer un crédit, que les enfants ils puissent faire un sport, qu'on puisse payer les soins. Hier, j'avais l'orthodontiste, c'est 1050 euros qu'il faut sortir. Bah, c'est des budgets qu'après, on ne met pas ailleurs. Donc, il faut avoir des priorités. Les vacances n'en font pas partie, non.
Parce qu'elle voit son pouvoir d'achat se réduire, Alicia est partie en vacances pour la dernière fois.
Il y a 2 ans, j'avais trouvé en particulier pour 10 jours 650 euros quand même. Après, quand on compte l'essence, le péage et tout, ça revient très cher. Et là, vu le prix de l'essence, à mon avis, c'est pas cette année qu'on va pouvoir partir encore.
La flambée des carburants contraint un Français sur trois à renoncer à partir en vacances ou en week-end, selon un sondage Elab pour BFM TV publié hier.
Vous, une fois vos factures payées, est-ce que vous réussissez à partir en vacances? Appelez-nous au 3216 pour partager.
670 salariés dans la crainte du groupe Fibre Excellence, dernier producteur de pâte à papier marchande en France. Le groupe qui détient 2 usines sur le territoire s'est déclaré en cessation de paiement. Hier, l'activité se poursuit dans l'attente d'une décision de justice. Reportage à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, sur l'un des sites concernés. Jean-Wilfried Forquès.
À l'heure du déjeuner, le risque d'une fermeture prochaine de l'usine inquiète les habitants.
Une activité qui s'arrête est dramatique.
J'ai l'impression que ça va fermer. Et c'est bien regrettable parce que c'est quand même une véritable institution. Il y a beaucoup d'emplois.
L'usine de Saint-Gaudens compte 270 salariés, tout comme celle de Tarascon dans les Bouches-du-Rhône, et génère 5000 emplois indirects. Laetitia Carlier est la gérante d'un restaurant dont une bonne partie des clients travaillent pour Fibre Excellence.
Au moins 30% de ma clientèle. Des gens que je livre tous les jours, des gens qui font des soirées, qui font des anniversaires.
Des générations de Saint-Gaudinois ont travaillé à l'usine de pâte à papier. C'est le cas de Sébastien Oustric, délégué syndical CGT.
J'ai passé plus de temps dans cette usine qu'avec ma famille. Donc aujourd'hui, mon père y a travaillé quasiment 30 ans, même plus peut-être. Moi, 30 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont inquiets. Ça fait des mois de moins que ça dure.
Pourtant, le responsable syndical veut garder espoir, tout comme le maire Jean-Yves Duclos.
Je suis certain que cette usine est rentable avec une diversification à faire dans les mois à venir pour pouvoir pérenniser à long terme cette activité.
Le 27 avril prochain, le tribunal de commerce de Toulouse devra se prononcer sur la poursuite ou non de l'activité.
Le Bayern Munich rejoint le Paris Saint-Germain dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Les Bavarois se sont qualifiés hier soir à l'issue d'un match complètement fou. Victoire 4-3 face au Real Madrid de Kylian Mbappé éliminé. Les Allemands ont donc rendez-vous avec le Paris Saint-Germain. Ce sera le 28 avril au Parc des Princes pour ce match aller des demi-finales de la compétition. L'impatience, vous allez l'entendre, monte déjà pour les supporters parisiens. Partagez, Corentin Roland, entre excitation et fébrilité.
Au milieu des Munichois, dans un bar du nord de Paris, Sacha, supporter du PSG, observe le futur adversaire des Parisiens.
Moi, en tout cas, ça me fait peur, parce que c'est l'équipe la plus cohérente dans le jeu.
Un duel au sommet de ces demi-finales de Ligue des Champions attend Paris, tenant du titre, et le Bayern. Les Allemands ont renversé le Real 4-3 hier et sont la meilleure attaque d'Europe cette saison. Jules supporte le PSG depuis son enfance.
Le Bayern, ils sont très forts depuis le début de la compète. On va avoir un très gros match avec probablement les deux meilleures équipes d'Europe actuellement.
Le danger numéro 1 bavarois est ciblé et il est français.
Olise, il fait très mal sur le côté droit.
Michael Olise fera face au Ballon d'Or Ousmane Dembélé et sa bande. Et si les Parisiens se sont inclinés contre le Bayern en novembre, cela n'inquiète pas les supporters.
Je reste quand même assez serein, on a un très bon collectif.
C'est des phases finales, il y a beaucoup plus d'enjeux, beaucoup plus de tensions. Et on sait que le PSG est très fort dans ces moments-là.
La demi-finale aller aura lieu à Paris, le retour à Munich, où il y a un an, le PSG a décroché sa première Ligue des Champions.
Et l'autre demi-finale opposera Arsenal à l'Atlético Madrid. Une place dans le dernier carré d'une Coupe d'Europe, ce serait historique pour Strasbourg opposé à Mayence ce soir, Ligue Europa Conférence. Les Alsaciens partent avec 2 buts de retard dans cette rencontre à vivre dès 21h sur RMC.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h08 et attention, journée spéciale.
RMC défend votre pouvoir d'achat.
Journée spéciale sur RMC, toute la journée, toutes les 30 minutes, RMC vous offre votre plein 120 euros d'essence. Vous envoyez tout de suite plein au 7-32-16, plein au 7-32-16 et 15 minutes pour jouer. Il y a un gagnant toutes les demi-heures, 120 euros d'essence, toutes les demi-heures à gagner sur RMC, la radio du pouvoir d'achat. Il est 7h09.
75 centimes par SMS, 2 SMS maxi.
Et si la solution c'était le train, mais un train moins cher, divisé par 2 les prix des billets de train, c'est votre parti pris. Cyrielle Châtelain, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée. Le train pour pallier au carburant trop cher, c'est votre parti pris. Vous le défendez dans un instant et je vous attends vous au 32-16. Avez-vous les moyens de partir en vacances? Et si on divisait par 2 le prix du train, est-ce que vous changeriez vos habitudes? Je vous attends au 32-16. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 sur RMC et RMC Story. Presque 300 euros aller-retour pour un Paris-Marseille cet été. 75 euros simplement un Toulouse-Perpignan en TER. On le sait tous, les prix des billets en France sont chers. Des billets de train, bien sûr. Et face à ce constat et en pleine crise des carburants, il faut diviser par 2 le prix des trains. Voilà votre proposition, Cyrielle Châtelain, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée et vous êtes présidente du groupe écologiste à l'Assemblée. On est tous d'accord, évidemment, que ce serait beaucoup plus sympa que le train soit moins cher. Mais on fait comment?
Ah ben, comment on fait?
Qui paye?
C'est ça. Ben, la question, c'est l'argent. Et sur les trains, en plus, on a deux opérateurs, si on veut. On a les régions et on a la SNCF. Pour nous, notre hypothèse, c'est que si on baisse les tarifs, on aura une hausse de la fréquentation. Donc déjà, il y a une partie de l'argent qui va rentrer parce qu'on prendra davantage le train plutôt que de le faire payer.
Ce sera des billets moins chers, mais il y en aura plus vendus.
Tout à fait. Et ce qui se passe en Centre-Val-de-Loire ou en Franche-Comté, où globalement les tarifs sont moins chers, c'est qu'on voit que la fréquentation est plus forte. Donc c'est une hypothèse qui est solide. Par contre, si on veut que ça se fasse, il faut que l'État joue son rôle et dise « Ok, vous prenez un risque, s'il y a de la perte, c'est pour moi ».
Donc que l'État soit en quelque sorte garanti qui soit la caution de cette baisse des prix. Après, il y a quand même un problème. Moi, je veux bien que plus on baisse les prix, plus on en vende. Mais les trains, ils sont très souvent complets déjà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui se retrouvent à ne pas pouvoir prendre de train, y compris pour fin mai, pour juin, ils nous le disent. Donc, jusqu'à un certain point, en vendre plus.
Alors, c'est pas le cas sur les TER. Là, si on est sur des mesures d'urgence face au pouvoir d'achat, la question, c'est comment je vais au travail. Et donc, c'est ces lignes du quotidien. Aujourd'hui, le taux de remplissage des TER, c'est 25%. Donc, on a de la capacité en plus. Pas sur toutes les lignes. Hein. Moi, j'ai fait le Grenoble-Paris. Il y a des heures, c'est très compliqué. Mais en fait, s'il y a des capacités à mettre plus de rames, déjà, on l'a vu, et deux, vraiment, 25% de taux de remplissage du TER, c'est très faible.
L'idée, c'est donc à la fois vertueux sur le pouvoir d'achat et vertueux, évidemment, sur l'environnement.
Tout à fait.
Est-ce que vous pensez vraiment que les Français sont prêts à changer leurs habitudes? On les sait très attachés à leur voiture et à la liberté que ça leur procure.
Alors, premièrement, les études démontrent que le prix est le premier blocage pour prendre le train. Donc, un train moins cher, ça peut permettent à des personnes qui se disent « je voudrais bien prendre le train, je peux pas » de le faire. Deuxièmement, ça répondra pas à toutes les questions. Il y a des endroits où on a fermé des lignes, où il y a plus de capacité à prendre le train, et c'est pour ça qu'on a aussi des propositions sur la question de la voiture, que ça soit un parc social électrique à 1 million de voitures, ou sur la question du blocage des marges des raffineurs. Donc bien sûr, ça ne répond pas à tout, mais pour changer les habitudes, il faut que le prix soit pas un blocage à la porte d'entrée vers le train.
Christelle nous a appelé du Loiret. Vous êtes à Olivet. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Christelle, vous êtes responsable dans un entrepôt et vous êtes au bord du craquage à cause des prix du gasoil. Vous le dites comme ça, hein?
Oui, je le dis clairement.
Comment ça se manifeste? Vous en pouvez plus?
Bah non, parce que tous les jours tout augmente, on entend tout et n'importe quoi dans les journaux et notre gouvernement qui fait tout ce qu'il veut et qui entend personne. Donc je pense qu'à un moment donné, après les gilets jaunes, il va y avoir le burn-out du gasoil. On va tous se mettre en arrêt de maladie, parce que nous qui travaillons tous les jours, qui rapportons de l'argent à l'État, on paye toujours et toujours et encore et encore.
Quand vous dites burn-out du gasoil, vous prenez la voiture tous les jours, tout le temps, vous en avez besoin?
Tous les jours, c'est ça.
Combien de temps pour quel type de trajet?
Bah, je vais dire 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Donc le gasoil, la voiture, faut bien qu'elle roule. Pour qu'elle roule, il faut bien que je mette du gasoil. À 2,25€ au moins cher ou à 2,50€ au plus cher, bah, on fait vite les comptes. Hein. Je devais partir une semaine au mois de mai, je pars pas.
Vous avez renoncé à partir?
Ah bah oui.
Vous ferez quoi? Vous allez rester à la maison?
Ah bah on va rester à la maison, puis on va essayer de moins consommer. Comme ça, l'État, ils vont comprendre un peu ce qui se passe.
Vous deviez partir où? Vous deviez partir où? Vous envisagez de partir où, Christelle?
Dans le Var.
Alors si le train est moins cher, est-ce qu'éventuellement vous pourriez y aller en train?
Nous sommes une famille de 4.
Oui.
Donc 4 billets de train pour aller dans le Var. Déjà de chez nous, dans le Loiret, il faut que je prenne 2 trains. Ensuite, arriver sur place pour pas être tributaire de tout le monde, il faut que je loue une voiture. Ma liberté, c'est ma voiture. Donc qu'ils entendent ou qu'ils n'entendent pas, on est libre quand on roule avec notre voiture. On veut rouler en voiture. C'est un choix qu'on a fait, qu'on parte en gasoil, en essence ou ce qu'on veut. On doit pouvoir être libre de nos mouvements.
Vous voulez pouvoir être libre de vos mouvements? Je voudrais que vous puissiez répondre, Christelle Châtelain. Ariel Châtelain, à Christelle.
Déjà, ce qui se passe là, le fait qu'aujourd'hui, liberté égale voiture, c'est un choix qui a été fait, mais depuis des années. C'est-à-dire qu'on a un État qui a...
C'est pas le choix de Christelle,
c'est un choix du gouvernement et qu'elle subit de désinvestir sur toutes les lignes. C'était les fermetures des petites lignes de train. Elle le dit maintenant, il faut qu'elle prenne 2 trains. Ça a été le désinvestissement pour accompagner les collectivités dans les transports en commun. Donc déjà, c'est un choix subi.
Et en même temps, Christelle a raison. Si elle arrive sur place dans le Var et qu'elle a pas de voiture, comment vous voulez faire?
Oui, mais avant, il y avait des lignes de train un peu partout qui ont été déconstruites. Deuxièmement, il y avait des bus, il y avait des transports en commun. C'est un maillage qu'on a détruit. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on en est à cette étape-là et ça va mettre du temps pour reconstruire. Donc, il faut commencer par descendre les prix. La deuxième chose, effectivement, là, ce qui se passe, c'est inacceptable sur les prix. Parce que c'est toujours la même chose. On parlait des gilets jaunes, mais après, il y a eu le Covid. Après, il y a eu la guerre en Ukraine. Les prix flambent et on revient toujours à la même chose. C'est-à-dire, il y en a qui s'en mettent plein les poches et il y en a qui galèrent. La dernière fois, il y avait une loi d'urgence. 2022, la première loi qu'on a étudiée, c'était une loi d'urgence. Il faut une loi d'urgence. Il faut un projet de loi de finances rectificative pour aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire sur les super profits, et le remettre là où il y en a besoin.
Christelle, vous demandez quoi? Vous demanderiez quoi pour éviter ce burn-out du gasoil, comme vous dites?
Que l'État, ils arrêtent de s'en mettre aussi plein les poches, parce qu'on en est là aujourd'hui, et je pense qu'on pense tous la même chose. Ils arrêtent de garder leurs taxes pour eux, pour renflouer les caisses, parce que d'ici un an, certains vont partir, il va falloir justifier, bref. Qu'ils arrêtent de se renflouer, qu'ils nous laissent notre gasoil à 1,49 ou à 50. Tout le monde va vivre correctement, tout le monde continuera à aller au travail et il n'y aura plus ces plaintes. Mais quand j'entends le gouvernement qui dit non, surtout pas ces taxes, surtout on ne peut pas les diminuer, on ne peut pas, le trou de la sécu va s'agrandir, je suis désolée. Qui va justifier?
Parce que vous vous dites, si on continue comme ça, je vais tomber en arrêt maladie, quoi.
Je vais pas. En fait, Apolline, je suis désolée de le dire, mais est-ce que moi je vais payer demain pour aller travailler? Est-ce que moi je dois payer pour aller travailler? Parce qu'on en est là.
C'est exactement la question. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir témoigné, Christelle. Et merci à vous, Cyrielle Châtelain. Vous êtes donc la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée. Vous l'affirmez, il faut, au moins pour un temps, et à la fois pour changer les habitudes et pour répondre à cette hausse des prix du carburant, divisé par deux le prix des trains. Merci à vous. Il est 7h19 sur RMC. Arthur Chevalier est rentré dans ce studio. Bonjour, Arthur.
Bonjour, Apolline.
Arthur, vous revenez ce matin sur la Corée du Nord, une dictature de père en fils depuis 1948.
Oui, une dictature où il est même interdit de fêter son propre anniversaire, hein, puisque le seul anniversaire qu'on peut fêter, c'est celui du dirigeant Kim Jong-un.
Vous nous le dites dans un instant. Il y a aussi Arnaud Demange qui arrive pour pirater le face-à-face. Mon invité ce matin, justement, on parlera prix des carburants. Il a 1000 stations essence sur le territoire. C'est Dominique Schelcher, le patron des magasins U. Ne bougez pas, il est 7h20. On se retrouve dans 60 secondes.
RMC, Apolline Matin.
Très bon réveil à tous, il est 7h21, merci d'avoir choisi RMC pour vous réveiller. Quand l'histoire éclaire notre actualité, comme chaque matin, notre historien Arthur Chevalier. Arthur, hier, l'Agence internationale de l'énergie atomique a tiré la sonnette d'alarme à propos de la Corée du Nord. La Corée du Nord, elle y constate, je cite, une augmentation très inquiétante des capacités du pays à produire des armes nucléaires.
Eh oui, des armes qu'en fait, techniquement, la Corée du Nord sait déjà produire depuis 2017. Hein. Cette année-là, ce pays avait surpris tout le monde avec un essai nucléaire réussi. L'explosion équivalait à 16 fois celle de Hiroshima. Hiroshima, c'est la bombe atomique lâchée par les Américains sur le Japon en 1945. Alors évidemment, on ne les laisse pas faire. Les Coréens sont sous sanctions de l'ONU pour les empêcher de produire des bombes à grande échelle. Des sanctions qui ne sont pas respectées, puisqu'une chose est sûre, la production nucléaire coréenne tourne à plein régime.
Rappelons que la Corée du Nord est une des dictatures les plus meurtrières.
Oui, le mot est faible. Apolline, à la Corée du Nord, c'est un pays fondé en 1948 par un homme qui s'appelait Kim Il-sung. Et à la base, c'était une dictature communiste comme il y en avait tant d'autres à l'époque. Sauf que ce régime va survivre à tout, y compris à l'effondrement de l'URSS. Petit à petit, il va se couper du monde en s'enfonçant dans la pauvreté avec un régime sanguinaire.
La Corée du Nord va surtout accumuler un retard économique dramatique.
Oui, au point de connaître une famine atroce dans les années 1990, hein, une époque effroyable où entre 500 000 et 2 millions de Coréens ont trouvé la mort. Ce qui s'est passé là-bas est presque inimaginable. Les gens se nourrissaient de rats, de grains de maïs récupérés dans des bouses de vaches. Il y a même eu beaucoup de cas de cannibalisme. Je le répète, c'était dans les années 90, donc il y a 30 ans. Hein.
La Corée du Nord, c'est aussi une dynastie de dictateurs.
Et oui, tous de la même famille. Cette famille, c'est la famille des Kim. Le fondateur, on l'a dit, c'était Kim Il-sung. Son fils, Kim Jong-il, lui a succédé en 1994. Et en 2011, c'est Kim Jong-un, le petit-fils du fondateur de la dynastie qui a pris le pouvoir. C'est l'actuel dirigeant. Il a aujourd'hui 42 ans.
Sa particularité, c'est qu'il est complètement paranoïaque.
Alors oui, son obsession, c'est de ne laisser aucune trace ADN là où il passe. Hein, quand il est à l'étranger en voyage, il se déplace toujours avec ses propres toilettes, à l'hôtel, y compris dans les palaces. Il dort dans un lit de camp qu'il apporte avec lui. Un avion cargo avec sa propre nourriture le suit partout. Et quand il est à un dîner officiel, avec un autre chef d'État par exemple, des officiers de sécurité récupèrent les assiettes, les verres, les couverts, tout ce qu'il a utilisé à la fin du repas, confisqué. Tout ça dans un même but, ne laisser aucune trace, ni cheveux, ni poils, ni salive.
À quoi ressemble le quotidien des Nord-Coréens?
En gros, vous pouvez rien faire du tout. Hein. C'est interdit d'aller chez un ami ou un membre de votre famille sans prévenir la police au préalable. Interdit aussi de fêter votre propre anniversaire, puisqu'on ne peut fêter que l'anniversaire de Kim Jong-un. Et si vous n'obéissez pas, naturellement, vous êtes envoyé dans un camp. Des camps, puisque d'après les rapports officiels, les conditions de détention dans les camps prisonniers nord-coréens sont parfois pires que celles des nazis. Un enfer sur terre, Apolline.
Effrayant. Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Pour réécouter vos chroniques, vous le savez, c'est à tout moment le podcast sur le site et l'application RMC. 7h24, un peu de légèreté, Arnaud Demange.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Et bonjour.
Tout à l'heure sur RMC, BFM TV à 8h30, mon invité dans le face-à-face, ce sera le patron des magasins U, Dominique Schelcher.
Oui, et c'est donc le retour de notre grand jeu. De quoi va nous parler l'invité? De quoi va-t-il nous parler? Home. Alors hier, je vous avais donné 4 propositions. Vous aviez gagné un écran plat, Apolline. Aujourd'hui, c'est une bourriche d'huîtres qui est en jeu.
Ah.
Alors, notre invité va-t-il nous parler de l'évolution du rôle du chien dans le cinéma français, de faire valoir comique un révélateur existentiel?
Non.
C'est un débat de niche, mais c'est intéressant. Le manque d'inspiration sur les des humoristes sur le prix des carburants après 49 jours de conflit.
C'est très intéressant.
Petit C, le port du crop top chez les boomers et son influence sur la santé de la rétine des vacanciers. D, le prix de l'essence. C'est pas facile,
yes,
hein. C'est pas facile. Vous avez gagné une bourriche d'huîtres, Apolline. Dominique Schelcher est le patron des Super U, Hyper U, Resto U, du Détroit Dorme U et une série de stations-service où on achète rien parce que tout est bloqué. L'État veut encadrer la marge des distributeurs d'essence. C'est surtout le PDG de Total qui va encadrer son bilan comptable du mois de mars, lui l'accrocher au-dessus de son lit. Lui, franchement, Patrick Pouyanné, il doit être en mode Homer Simpson. Pinaise, c'est une jolie marge. Ouh. Il appelle marge. C'était débile, mais ça m'a fait rire.
Oui, bah moi aussi, ça m'a fait rire, Arnaud, j'adore. J'achète.
Donc là, le gouvernement.
Ça vous a troublé un peu, hein, un petit peu, ouais, ce petit marge.
C'est tous ces petits compliments gentils. Là, le gouvernement regarde du côté des distributeurs, ce à quoi les distributeurs répondent, bah, on n'en fait pas des marges. Ce à quoi le gouvernement répond, bah merde, du coup, on fait quoi? Ce à quoi les Français répondent, si on baissait vos taxes, le gouvernement, ce à quoi le gouvernement répond, bah, on n'a pas une thune, on est à 3 800 milliards de dettes. Demandez aux distributeurs de baisser leurs marges. Ce à quoi les distributeurs répondent, hein? Vous êtes cons, quoi? Donald Trump a annoncé que la guerre était presque finie. Alors tiens, à Pau, hier, j'ai écouté votre interview avec l'expert en géopolitique Antoine Bazbouze. Vous vous demandiez tous les deux, peut-on croire Donald Trump? Eh bien, la réponse est non. Voilà. L'analyse est finie. Voilà, voilà.
Vous faites quoi à 8h30, Arnaud, demain?
Non, mais hein, je peux non, dire, parce que. C'est fini. Sinon, vous faites quoi ce week-end? Voilà. Moi, c'est l'anniversaire de ma belle-mère. Au prix de l'essence, je sais même pas si je vais y aller. Bref, on n'aura peut-être même pas d'essence pour les vacances. Les compagnies aériennes doublent leur prix à cause du kérosène. On va devoir voyager léger. Hein. On sera pesé avant. Les bagages, on aura droit à un sac banane avec une brosse à dents. Heureusement que les trains fonctionnent à l'électricité. Et que c'est pour ça qu'il faut payer 500 euros pour un Paris-Montpellier. Vous en parliez avec Cyrielle Châtelain tout à l'heure. Macron voulait nous enlever un jour férié. Et ben Trump va arriver à nous supprimer toutes les vacances. Rendez-vous avec un moment optimiste. Dominique Schellcher à 8h30.
C'était Arnaud Demanche, il est 7h27. Et d'ailleurs, tiens, n'oubliez pas, Arnaud Demanche, on le retrouve à 8h20. Et Nicolas Canteloup, tous les jours, après le face-à-face, ce sera à 8h50 sur RMC. Il est 7h27, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Et à la une, c'est aussi ces Français qui n'ont pas les moyens, justement, de partir en vacances. On vous attend au 32-16. Il est 7h29 et il fait beau, Géraldine.
Oui, ou il va faire beau si c'est pas encore forcément le cas tout de suite ce matin. Parce que c'est vrai qu'au nord de la Loire, il peut y avoir de la grisaille. Il y a des brouillards, notamment dans l'ouest. Mais en journée, ça va bien se dégager. Il y aura très belles éclaircies, quelques petits passages nuageux qui seront sans conséquence, hein, quelques cumulus classiques à cette période de l'année. Au sud de la Loire, plein soleil, hein, toute la journée. Puis les températures qui grimpent dès ce matin. Cet après-midi, on sera 3 à 5 degrés au-dessus des normales de saison, avec 18 à Lille ou Rouen, 20 à Paris, Clermont-Ferrand, 21 à Lyon, Strasbourg, 23 à Bordeaux, 24 à Marseille, jusqu'à 25 pour Perpignan.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Solène Gardré. Bonjour Solène.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Renoncer à son indemnité de maire pour renflouer les caisses, c'est l'engagement du maire du Creusot en Saône-et-Loire. Les dirigeants libanais et israéliens vont-ils se parler aujourd'hui? C'est en tout cas ce qu'affirme Donald Trump. Et puis une salle de sport ouverte toute la nuit sans employés, ça sera possible dès le mois prochain.
En Saône-et-Loire, le maire du Creusot renonce à son indemnité.
Et oui, 5 600 euros bruts par mois qu'il prévoit de réinjecter dans les services publics locaux. Alors ce n'est pas le seul, hein. Même décision des maires de Pamiers en Ariège ou de Lormont en Gironde. Charles Landre, le maire du Creusot, assume lui vouloir créer le débat. Il s'est confié à Amélie Courté pour RMC.
Renoncé à son indemnité, Charles Landre, nouveau maire du Creusot, en avait fait une promesse de campagne.
Mon geste, c'est aussi une manière de provoquer à la fois un électrochoc sur les dérives qui peuvent exister, de cumul des indemnités, des fonctions et des remboursements de frais, et de créer le débat sur ce que doit être la juste indemnisation d'un élu. Et je dis bien que les indemnités, c'est quelque chose de nécessaire.
Un geste qui va permettre de faire 30 000 euros d'économie à la commune cette année. Le maire, qui dirige toujours une entreprise en parallèle, a également diminué les indemnités de l'ensemble des élus du conseil municipal.
Je dis aux habitants que nous sommes les premiers à faire des efforts nécessaires pour équilibrer les comptes publics.
Les habitants, justement, qu'en pensent-ils?
Tout travail mérite salaire, ça ne me gênait pas qu'ils gardent une indemnité. Ça m'aurait plus gêné qu'ils prennent le parti de l'augmenter. Maintenant, s'asseoir dessus, entre guillemets, bon, est-ce que c'est la démagogie?
Pourquoi pas? On va dire que c'est novateur. C'est un peu surprenant. Voir à quoi ça va servir.
Ce qu'ils attendent surtout, c'est de voir les actions que le maire va mener.
Les gens viennent travailler, mais n'habitent pas ici. C'est fort dommage.
Pour rendre leur commune plus attractive.
Des discussions entre le Liban et Israël pourraient reprendre aujourd'hui, c'est en tout cas ce qu'affirme Donald Trump. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, s'est exprimé sur ce qu'il attend de telles négociations.
Dans les négociations avec le Liban, il y a deux objectifs principaux. Premièrement, le démantèlement du Hezbollah. Et deuxièmement, une paix durable, une paix fondée sur la force. En attendant, notre armée continue de frapper le Hezbollah. Nous sommes sur le point d'anéantir leur grand bastion dans le sud du Liban.
C'est une information de nos confrères de BFM TV ce matin. Le gouvernement va demander une enquête à la Commission européenne sur les marges des raffineurs. En plein débat sur le décret que prépare le gouvernement pour encadrer les marges des distributeurs qui sont très remontées, Carrefour, Auchan ou encore Leclerc dénoncent un texte défaillant et déséquilibré, Célestin Bougère.
Une mesure inacceptable à Thierry Cotillard sur le plateau de BFM TV hier se dit remontée. Le patron du groupement Les Mousquetaires Intermarché prédit que cette proposition du gouvernement n'aurait aucun effet sur les prix à la pompe, tant ses marges sur le litre de carburant sont faibles.
Mes adhérents, c'est des commerçants, donc souvent ils sont entre 0 et 1. Quand il faut payer des charges, ils sont à 2 centimes. C'est notre intérêt et c'est la demande de nos consommateurs.
Maud Bréjon tempère quelques heures plus tard. La ministre déléguée en charge de l'énergie rappelle que le décret n'est qu'un projet pour le moment.
Nous leur demandons de répercuter les baisses aussi vite que les hausses ont été répercutées. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on n'ait pas besoin d'aller jusqu'à la promulgation de décrets, mais qu'on travaille avec éthique, avec bon sens. Et je crois que beaucoup y sont prêts. Donc tant mieux, allons-y comme ça.
De leur côté, les distributeurs proposent de suspendre pendant la crise la collecte des certificats d'économie d'énergie qui représentent 15 à 20 centimes le litre et qui servent à financer la transition énergétique. Hors de question, répond la ministre.
Il y aura d'autres crises énergétiques. Et la meilleure façon d'y être protégée, c'est d'avoir opéré cette transition énergétique, c'est d'être moins dépendant du gaz, c'est d'être moins dépendant du pétrole.
Maud Bréjon confirme qu'aucune mesure généralisée pour l'ensemble des automobilistes n'est prévue pour le moment.
À Guenbar, dans le Haut-Rhin, le récit glaçant du garçon de 9 ans séquestré pendant plus d'un an dans une camionnette par son père et sa belle-mère. Il a été entendu par les enquêteurs accusant sa belle-mère d'abord, qui selon lui menaçait de le placer en hôpital psychiatrique. Son père lui apportait de la nourriture 2 fois par jour et il n'aurait pas pris de douche depuis fin 2024. L'enquête se poursuit pour déterminer comment cet enfant a pu disparaître des radars sans inquiéter pendant plus d'un an. Seriez-vous prêt à vous rendre à une salle de sport la nuit sans aucun employé? Basic Fit, une des grandes chaînes de salles de sport françaises, a annoncé hier que 50 de ces salles resteraient ouvertes la nuit sans employé à partir de mai prochain. 200 au total pourraient fonctionner sur ce système. L'objectif pour ces salles de sport à bas prix, c'est bien de faire des économies. Une idée qui partage les utilisateurs. Reportage à Paris d'Alfred Orange et Sarah Bélienne.
Pouvoir faire sa séance de sport au beau milieu de la nuit, une aubaine pour Augustin.
Très bien pour moi, parce que moi, je suis noctambule.
Ce barman voit aussi le côté pratique.
Les jours que j'arrête de bosser à 12h du mat et j'arrive ici à 3h du mat et j'ai encore d'énergie, ça viendra très bien d'avoir l'accès à la salle de sport.
Une idée qui intéresse aussi Mathieu, employé dans l'hôtellerie.
Je suis né aux alentours de 1h, 1h30. Il y aurait moins de monde dans les salles de sport, je pense.
Pratique surtout en fin de semaine pour d'autres.
L'amplitude horaire est pas assez forte pour moi le week-end.
Le dimanche, par exemple, ça ferme à 7h, donc ça pourrait être cool.
Des plages horaires élargies, sans employé pour superviser la salle de minuit à 6h du matin. Pas de quoi rassurer Manon.
En tant que femme, on pourrait s'inquiéter un petit peu d'être seule avec quelqu'un de mal intentionné.
Dans un communiqué, la chaîne précise que les salles seront dotées d'un dispositif de vidéosurveillance 24h sur 24 et que la jauge ne dépassera pas les 19 personnes la nuit. Les salles déjà ouvertes en continu avec du personnel basculeront elles aussi vers ce modèle de club autonome. L'enseigne espère ainsi réaliser 10 millions d'euros d'économies par an.
Et le PSG affrontera le Bayern Munich pour la demi-finale de la Ligue des Champions. Les Allemands ont battu le Real Madrid hier 4-3. Arsenal s'est qualifié contre le Sporting Portugal. Et ce soir, Strasbourg affronte Mayence pour les quarts de finale. Retour de la Conference League. Les Alsaciens ont 2 buts de retard. Et les courses pour finir. Le Quintet se déroule sur l'hippodrome de Paris-Longchamp à 13h55. Le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori est le numéro 7, 8 et leur outsider est le numéro 3. Lord of War.
C'était le journal de Solène Gardré. Et vous le savez, c'est une journée spéciale sur RMC.
RMC défend votre pouvoir d'achat.
Toute la journée et toutes les 30 minutes, RMC vous offre le plein 120 euros d'essence. Pour participer, vous envoyez tout de suite plein au 732-16. Plein au 732-16. Vous avez 15 minutes pour jouer à partir de maintenant. Et c'est toutes les demi-heures, toute la journée qu'RMC est à vos côtés.
75 centimes par SMS. 2 SMS maxi.
Et voilà, c'est aussi l'une des conséquences de cette crise des carburants. La consommation en France est en berne. Les Français sont obligés de faire des arbitrages. Et c'est un chiffre qu'RMC vous dévoile ce matin. Hors grande distribution, les commerces voient leur vente reculer de 4,7% en mars. Bonjour Sandra Oybian, merci d'être dans ce studio ce matin. Vous dirigez le Crédoc qui étudie la vie économique et la consommation des Français. Face à la crise, ils font des arbitrages, les Français. Est-ce que ça peut durer? Sur quoi est-ce qu'ils se reportent? Je vous pose la question dans un instant, non seulement à vous, mais aussi à tous ceux qui nous écoutent. Appelez-nous au 3216 pour nous dire si vous avez changé vos habitudes. Il est 7h37.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Et 7h40, et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Face à la flambée des carburants, les Français font des arbitrages, des choix et des sacrifices. C'est ce qu'RMC vous révèle ce matin. Les ventes des commerces sont en recul de 4,7% en mars. Boutiques de vêtements, magasins de beauté, magasins de jouets et même restauration ou bricolage. Les Français renoncent à certains achats. Merci d'être avec nous, Sandra Awabian. Vous dirigez le CREDOC qui étudie nos habitudes de consommation. Pour vous, ces chiffres, c'est la conséquence directe de ce qui se passe au Moyen-Orient ?
Alors effectivement, ce qu'on constate aussi dans les enquêtes du CREDOC, c'est que on est sur un mode de consommation défensif, c'est-à-dire que les Français ont conscience que les prix ont augmenté. Ils s'inquiètent aussi qu'ils continuent à augmenter, puisque là, il faut rappeler que l'inflation reste encore mesurée, mais évidemment avec le choc énergétique. Les Français ont quand même le souvenir de la période inflationniste et du fait que ça risque de se répercuter sur l'ensemble des prix. Et donc, on met de l'argent de côté, on essaye de limiter au maximum les dépenses pour se préserver par rapport à l'avenir.
Alors, on parle de qui ? On va voir. On parle de quoi ? Quels sont les achats, les magasins dont les allées sont vides aujourd'hui ? Quels sont les achats qui sont au minimum décalé dans le temps, peut-être même sacrifié.
Alors déjà, il y a des conséquences depuis plusieurs années sur les impayés, et notamment les impayés d'énergie qui ont été multipliés par deux depuis 2019. Donc on est à 1,2 million aujourd'hui de Français qui n'arrivent pas à payer leurs factures. Donc il y a des conséquences qui sont pas forcément dans les supermarchés, mais qui sont clairement sur des dépenses qui sont considérées comme incontournables. On a ensuite effectivement les dépenses de loisirs, évidemment, qui sont repoussées. Les gros achats aussi, on attend davantage avant de se lancer.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour changer une voiture? Ça veut dire
changer une voiture, mais ça peut être aussi la machine à laver qui commence un petit peu à donner des signes de faiblesse. On va essayer d'attendre au maximum.
On bricole.
On bricole. Et puis également essayer de multiplier les moyens d'économiser le carburant. Donc ça va être faire des courses en même temps qu'on va aller accompagner le petit dernier à son activité,
regrouper
les trajets et également limiter au maximum les déplacements, que ce soit pour des moments de sociabilité ou parfois aussi pour des démarches administratives ou autres.
Vous dites que les catégories évidemment les plus touchées, et c'est assez logique, ce sont les ruraux, les indépendants, ceux qui utilisent leur voiture, qui ne peuvent pas faire autrement que d'utiliser leur voiture.
Oui, il y a 10% de la population française qu'on considère comme étant en vulnérabilité par rapport aux déplacements. Et effectivement, c'est principalement des personnes qui sont situées en zone rurale, parce que c'est assez logique, il y a très peu de transports en commun, et qu'elles n'ont pas de moyens de report, en fait.
22% des Français n'ont pas les moyens de s'offrir ne serait-ce qu'une semaine de vacances par an. C'est un chiffre dévoilé par l'INSEE hier. C'est un chiffre stable, mais ça veut dire que finalement, ça ne s'améliore pas.
Alors, effectivement, on est toujours... Il y a 4 Français sur 10 qui, chaque année, ne partent pas en vacances, et la moitié pour des raisons financières. Après, on peut aussi ne pas partir en vacances parce qu'on a des problèmes de santé, parce qu'on est aidant familial, parce que professionnellement, on n'a pas la possibilité, etc. Donc, cette question du budget, elle est évidemment fondamentale dans le départ en vacances. Et pourtant, il y a des choses qui ont été mises en place, puisqu'il y a 37%...
Est-ce que vous pouvez nous rappeler lesquelles, justement ?
Alors, qui ne part pas en vacances ? Donc, c'est plutôt des publics bas revenus, foyers monoparentaux, chômeurs, également on a à la fois certains retraités et également des jeunes.
Mais on parle quand même beaucoup de ces questions-là et depuis longtemps, il n'y a pas des moyens qui ont été mis en place, il n'y a pas des aides ?
Si, tout à fait, il y a des aides qui ont été mises en place. On a aujourd'hui 37% des Français qui ont une aide pour partir en vacances, que ce soit des chèques vacances ou que ce soit des aides par le comité d'entreprise ou la mairie ou la CAF. Et elles ont un effet sur le départ en vacances. Mais ce qui se passe, c'est que tout ne peut pas venir non plus de l'État et des dispositifs d'accompagnement. D'ailleurs, les Français, ce qu'ils souhaitent, c'est surtout pouvoir vivre de leur travail.
La question, c'est qu'aujourd'hui, les salaires sont bas, l'inflation va monter. Patrice nous appelle au 3216. Bonjour Patrice.
Bonjour Apolline.
Vous avez 60 ans, vous vivez dans les Vosges et je crois que vous êtes au RSA. Donc la question des vacances, honnêtement pour vous, ça vous paraît même déjà complètement décalé ?
Moi j'ai le cadet de mes soucis les vacances, je vous le dis franchement, ça fait 15 ans que j'ai pas pris de vacances, j'ai déjà avec le RSA à peine de quoi survivre et payer mes factures, alors partir en vacances, excusez-moi, mais je m'en fiche complètement de partir en vacances. De toute façon je peux pas, les prix des séjours augmentent, tout augmente, comment on fait nous les plus pauvres? Et moi je n'ai droit à aucune aide de la CAF, du département, de la mairie, du
Vous n'avez que le RSA, rien de plus?
Oui, rien de plus.
Et vous avez quand même un revenu?
Non, j'ai le RSA, c'est tout.
Mais vous avez travaillé, vous allez toucher une retraite? Vous êtes dans quel moment par rapport à ça?
La retraite à 67 ans, pas avant. Et puis l'argent de côté, j'en ai pas du tout, parce que voilà, quand on est RSA, on peut pas mettre d'argent de côté, on peut pas se payer une bagnole neuve, on peut pas se payer une voiture électrique, on peut pas se payer des vacances, on peut rien se payer de neuf.
Mais vous avez eu du travail à une époque où vous en avez encore un peu?
Oh, j'ai eu du travail à une époque, mais comme je suis journaliste et reporter, à 60 ans, il y a très peu d'entreprises ou de médias qui nous embauchent.
Donc en fait, au quotidien, comment vous faites? Vous pouvez encore réduire les dépenses? Franchement, vous êtes déjà à l'os, non?
Ah mais je réduis les dépenses, là j'ai obtenu un jardin communal pour mes légumes, ça va être bien.
D'accord.
Je vais pouvoir économiser sur les légumes, je vais cueillir des champignons dans les bois, je ramasse des plantes comestibles dans les champs, on arrive à se démerder à peu près, mais je vous garantis que moi le bistec c'est une fois tous les 15 jours, les œufs c'est une fois par semaine, voilà. Et les fiestas, le restaurant et compagnie, ça fait 5 ans que j'y suis pas allé.
Ça fait 5 ans que vous n'y êtes pas allé. Vous voyez les copains quand même? Vous arrivez à vous retrouver quand même de temps en temps, à avoir des moments?
Oui, les copains dans un village de 400 habitants, éloigné un peu de tout, à 10 km d'un supermarché, à 10 km d'une gare. Alors vous savez, les copains.
Bon, bah nous on est là en tout cas. Il est 7h47, merci de votre témoignage et bon courage Patrice. Les vacances, c'est le cadet de mes soucis. Voilà ce qu'il dit.
Oui, on comprend très très bien. Là, le RSA, c'est un niveau de vie qui est quand même... très 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 compliqué à tenir avec 650 € par mois. Bon, vous voyez bien qu'il n'y a pas tellement de marge de manœuvre.
Le problème, c'est évidemment que c'est aussi un cercle vicieux. J'en parlerai tout à l'heure avec Dominique Schelcher, le patron des magasins U, avec cette baisse de la consommation. Vous n'iriez pas jusqu'à parler d'une déconsommation?
Alors, ça dépend des domaines. Par exemple, sur l'alimentaire, on n'a toujours pas retrouvé le niveau de consommation d'avant Covid. Donc il y a quand même des changements qui se sont opérés. Moi, pour moi le problème principal c'est le problème du travail qui s'est beaucoup flexibilisé, qui s'est beaucoup précarisé et qui fait que les gens ne savent pas forcément quels vont être leurs revenus. Juste pour donner un chiffre, on a 8 personnes sur 10 qui sont employées, qui sont engagées en CDD et 30% de ces CDD, ce sont des CDD d'un jour. C'est-à-dire que vous n'avez aucune visibilité, en fait.
Il n'y a pas de lendemain.
Il n'y a pas de lendemain, il n'y a pas de possibilité de prévoir quoi que ce soit, de mettre de côté. On a baissé le chômage, mais on a baissé le chômage avec de l'apprentissage, avec les micro-entrepreneurs. Les micro-entrepreneurs, en moyenne, ils gagnent moins de 340 euros par mois.
Et donc, l'impossibilité de se projeter, et donc, crainte, et forcément...
Donc, finalement, augmenter la part de personnes qui sont en emploi n'est plus forcément une solution aujourd'hui pour diminuer la pauvreté.
Merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous, Sandra Wabian. Vous êtes directrice générale du CREDOC, c'est l'institut qui étudie nos habitudes de consommation. Et merci à Patrice pour son témoignage. N'oubliez pas, merci aujourd'hui, journée spéciale aussi pour votre pouvoir d'achat précisément. On vous offre toutes les demi-heures le plein d'essence. Restez bien à l'écoute d'RM. Il est 7h49, la voix de gauche vient de rentrer dans ce studio, c'est jeudi. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Cécile Duflo, un député au SMIC ou un maire, le maire du Creusot, qui annonce qu'il va renoncer à ses indemnités de maire. Pour vous, c'est un geste fort ou c'est de la démagogie?
C'est un peu de démagogie. Être élu, ça demande du temps et pour ceux qui n'ont pas d'autres moyens par ailleurs, ça nécessite d'être payé.
Vous nous le dites dans un instant, il est 7h49 sur RMC.
RMC. Apolline Matin.
C'est l'heure du bonus avec Mathieu et c'est le grand retour de Madonna.
7 ans après son dernier album, ça c'est la sortie de Confessions 2 qui a été annoncée. On a une date le 3 juillet prochain, Confessions 2. Hein. Que cet album va être la suite de Confession on a Dance Floor, immense succès de 2005 dont vous entendez le single à l'époque. Alors un premier extrait a été diffusé hier. Sometimes I like to just hide in the shadows.
Ça reste énigmatique, c'est du teasing, hein, des nappes de musique, la voix de Madonna qui parle. Madonna qui promet un album spirituel, mais en dansant, dit-elle, nous devons danser et prier avec nos corps. Voilà ce que dit Madonna. La pochette de l'album a été révélée également. Madonna, qui aura 68 ans à la sortie du disque, pose sur une enceinte, tenue légère, violette, recouverte d'un voile rose. 17 chansons annoncées pour ce 15e album de Madonna l'été prochain.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
7h52 et c'est jeudi, c'est Cécile Duflot, la voix de gauche. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Le maire du Creusot en Saône-et-Loire a annoncé hier qu'il allait généreusement renoncer à ses 5600 euros d'indemnité d'élu. Il assure qu'il veut créer un électrochoc, que l'argent économisé sera redistribué dans les services publics de la ville. Est-ce que vous saluez cette initiative, Cécile?
Non, je trouve que c'est de la démagogie. Clairement de la démagogie, parce que ce maire, il est chef d'entreprise. Donc en fait, il n'en a pas besoin. Et par ailleurs, il prive ses adjoints d'indemnité, il les a beaucoup diminués, il dit que ça commencera pas avant mai. Et en fait, être élu, c'est du travail. Donc, si les gens n'ont environ à un mi-temps, hein, quand on est maire adjoint, si on le fait sérieusement, donc si les gens ils travaillent, qu'ils doivent se mettre à mi-temps, qu'ils n'ont pas les moyens de vivre, ça marche pas.
Donc, pour vous, un élu, il doit être payé.
Ah ben, si on paye pas un élu, c'est très simple. Qui va être élu? Et on a vécu ça dans notre histoire. Ce sera des mandats seulement pour des gens qui n'ont pas besoin d'argent.
Donc, pour les riches.
Pour les très riches, pour ceux qui sont chefs d'entreprise et qui gagnent très très bien leur vie, pour des retraités ou pour ceux qui ont une fortune personnelle et pas besoin de travailler. Et ça, je trouve pas ça normal. Il y a un maire du Pas-de-Calais qui a aussi dit qu'il renonçait à ses indemnités, qu'il allait les verser à une association. C'est très bien, mais il est retraité, il était médecin, donc effectivement, il a pas forcément besoin, il a du temps. Mais si on veut qu'un salarié classique, un salarié qui gagne 2000 euros par mois, qui passe à mi-temps, si on lui donne 400 euros d'indemnité, ce que veut faire le maire du Creusot, bah, il peut pas, tout simplement. Donc très clairement, ne pas payer les élus, c'est faire le choix d'exclure une grande partie de la population des mandats.
Et vous le savez, François Ruffin dit, je serai le premier président au SMIC, parce qu'au-dessus du SMIC, il distribuerait tout ça. Vous estimez, au fond, que c'est de la démagogie, qu'en plus, il y a quand même un certain nombre d'avantages, finalement, quand on est élu.
Alors, j'ai entendu François Ruffin, il a dit ça, mais comme il a dit lui-même, il a les moyens de le faire. Je sais très bien que si vous êtes une femme seule avec 4 enfants, c'était mon cas, j'aurais pas pu, j'aurais continué à travailler, j'étais payée plus que le SMIC, j'aurais continué mon travail. Enfin, donc, il y a quelque chose qui va pas.
Quand vous étiez ministre
et député. Quand j'étais ministre et député. Et par ailleurs, pour l'avoir été, je ne le suis plus depuis bientôt 10 ans, je peux vous dire que c'est plus confortable d'être salarié. Être élu, c'est beaucoup plus insécure, ça change très rapidement. Le niveau de protection sociale est beaucoup plus faible. La retraite des maires, par exemple, c'est quasiment rien du tout. Donc, faut pas dire des choses. J'ai souvent entendu, tout le monde me disait, bah alors, et la retraite de ministre, il n'y a pas de retraite de ministre. Enfin, il y a certains avantages pendant le mandat pour certains, mais il y a beaucoup d'élus qui ne gagnent pas d'argent en tenant leur mandat. Et je pense qu'il faut être un peu honnête en le disant, parce que sinon, finalement, on privatise ça au profit de quelques-uns.
Ce maire du Creusot, il relance le débat sur le montant aussi des indemnités. Est-ce que c'est trop ou est-ce que c'est pas assez élevé?
Bah en fait, je vais prendre l'exemple du maire de Paris. Le maire de Paris, c'est très transparent. En plus, ce qui est bien, c'est qu'avec les indemnités, on le sait, ça doit être voté. Il gagne 6900 euros net. Il est maire de Paris, c'est très confortable. Hein. C'est une rémunération très confortable. Il y a 55 000 agents, c'est pas non plus indécent. Je peux vous dire que ses directeurs, les directeurs fonctionnaires, sont payés bien plus que le maire. Et donc, la question de l'équilibre des rémunérations, c'est un vrai sujet. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si on paye pas les élus, bah, on ouvre la porte et un grand risque, celui de la corruption.
Ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire qu'au-delà de la question de la démagogie, pour vous, bien payer les élus, ça protégerait contre la corruption?
Mais oui, parce que le principe des élus, c'est d'avoir du pouvoir de décider, notamment des marchés publics. Et c'est très documenté. Quand vous payez mal les élus, bah, ils sont soumis à tellement de sollicitations qu'ils peuvent être vulnérables. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit l'intégrité a un prix. Il y a quelque chose d'assez juste finalement là-dedans. Et donc, c'est de l'argent public, donc on sait combien ils sont rémunérés. Et en revanche, là où le maire du Creusot a raison, c'est qu'il dit qu'il doit y avoir la transparence sur l'ensemble des frais de mandat. C'est vrai. Je pense que le bon cocktail démocratique, c'est bien considérer et bien rémunérer ses élus et exiger une totale transparence. Je pense que c'est comme ça que la démocratie peut bien fonctionner.
Merci Cécile Duflot, la voix de gauche sur RMC. Demain, c'est vendredi, vous débattrez face à la voix de droite, l'avocat Charles Consigny. Il est 6h56 sur RMC. Dans un instant, le journal de 8h à la une, la consommation en Berne, c'est une exclusivité RMC. On y revient dans un instant. Juste après le journal L'Économie, ce sera avec Emmanuel Le Chip. Emmanuel, vous allez nous parler de cette simplification de la vie des entreprises. Enfin,
est-ce que c'est le grand soir, Apolline?
Le grand soir de la simplification. Vous nous le dites dans un instant. N'oubliez pas, on vous fait aussi gagner toutes les demi-heures le plein sur RMC. Restez bien à l'écoute. Il est 7h56.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.